Aujourd'hui, dernier dimanche d'août, et aussi le dernier culte estival à Saint-Loup. Après Madeleine Richter et Philippe Saïsic, c'est ce matin Albert Curchaud, avec la communauté des sœurs, qui nous accueille. Du bon usage des événements imprévus et fâcheux de la vie, à tous les âges, on pourrait résumer ainsi les propos des prédications prononcées à Saint-Loup pendant cette série. Alors aujourd'hui, fil d'argent, vers automne, l'âge d'or. Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est de la vieillesse qu'il va s'agir. Du troisième et du quatrième âge, comme on dit. On supporte souvent mal de devenir vieux. On appréhende le cortège d'infirmité, de solitude, de retraite mal gérée, de fragilité grandissante, de maladie, que la vieillesse entraîne souvent dans son sillage. Peut-être, plus que toute autre chose, pèse le sentiment d'être inactif, de ne plus être utile à quelqu'un ou à quelque chose, d'être dépendant des autres. Alors pourquoi les noms clairs et optimistes des clubs d'aînés, si ce n'est qu'il est possible de tirer un bon parti de la vieillesse, de son âge mûr, comme cela l'a été de son enfance, de son adolescence, de l'âge de la pleine force. Tirer un bon parti de sa vieillesse, comme de tous les âges de la vie, malgré ses difficultés, ou peut-être à travers elles. Comment les transformer en signes d'espérance et de foi? C'est ce faire et cet être, plus ce devenir, que nous allons apprendre ce matin, dans le culte que nous allons ensemble maintenant célébrer, jeunes et moins jeunes, réunis au nom du Seigneur de la vie.
Nous voulons entrer dans ce dernier service du mois d'août avec l'assurance que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il est le maître de nos vies. Nous souhaitons que vous puissiez croire cela, amis proches et lointains qui voulaient bien vivre avec nous cette heure de culte, et nous demandons à Dieu de vous accorder maintenant sa grâce et sa paix. Levons-nous pour invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été notre sécurité. Avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde ait vu le jour, depuis toujours, c'est toi qui es Dieu. Et tu le resteras toujours. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton amitié et donne un sens à ce que nous faisons, oui, donne un sens à ce que nous faisons. Cantique 14, les strophes 1 et 2.
À l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, la terre et tous ses habitants, il est celui qui l'a fondée, qui l'a fermée et la maintient. Cantique 14, strophes 1 et 2.
Rappelons-nous comment Dieu veut être servi. Que chacun respecte sa mère et son père. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le dépouilleras pas. Tu traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Ne te moque pas d'un sourd et ne laisse rien devant un aveugle qui puisse le faire tomber. Lève-toi devant les cheveux blancs. Honore le vieillard. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Prions. J'ai passé ma vie, Seigneur, à chercher ma route au lieu de marcher avec toi. Aie pitié. J'ai passé ma vie, Seigneur, à mendier l'amour au lieu de t'aimer en mes frères. Aie pitié. J'ai passé ma vie, Seigneur, à chercher des sécurités au lieu de mettre ma main dans la tienne. Aie pitié. J'ai passé ma vie, Seigneur, à prendre des résolutions sans les tenir. Aie pitié. Amen. Maintenant, s'il est vrai, Seigneur, que tu nous sauves, non en raison de nos œuvres, mais selon ta grande miséricorde, alors nous sommes prêts pour recevoir ton salut. Levons-nous pour recevoir l'assurance de notre pardon dans la joie. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma miséricorde, dit le Seigneur. À tous ceux qui se repentent et qui croient, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous le déclarons maintenant, Dieu vous accorde le pardon de vos péchés. Alléluia.
Pour la lecture de l'Ancien Testament et de l'Épître, sœur Huguette
Nidec. Écoutons maintenant la lecture de la parole de Dieu. Dans son langage imagé, l'Ecclésiaste décrit l'approche de la vieillesse et de la mort.
Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les mauvais jours et que n'arrivent les années dont tu diras « Je n'y ai aucun plaisir ». avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, puis la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent, trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre, quand les battants se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule, quand on se lève au chant de l'oiseau et que les vocalises s'éteignent, alors on a peur de la montée, on a des frayeurs en chemin, tandis que l'amandier est en fleur, que la sauterelle s'alourdit et que le fruit du caprier éclate. Car l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et déjà les pleureuses rôdent dans la rue avant que ne se détache le fil argenté et que la coupe d'or ne se brise, que la jarre ne se casse à la fontaine et qu'à la citerne la poulie ne se brise, avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Grâce soit rendue à Dieu.
Où l'apôtre évoque le grand contraste entre le vieillissement inévitable de tout ce qui appartient au monde visible et la possibilité d'un merveilleux renouvellement. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitres 4 et 5.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Car nous le savons, si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, se détruit, nous avons un édifice, œuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas faite de main d'homme. Et nous gémissons dans le désir ardent de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste, pourvu que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, c'est un fait. Nous ne voulons pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement sur l'autre, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Celui qui nous a formés pour cet avenir, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Gloire à toi, Seigneur.
En face de la vieillesse, Jésus nous montre quelle est la seule chose essentielle et le secret de la vie véritable, être disposé à l'aimer et à le suivre. Levons-nous pour entendre la lecture de l'Évangile. Saint Jean, chapitre 21, dès le verset 15. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et sur cette parole, il ajouta, « Suis-moi. Louange à toi, ô Christ. Prions. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre de vivre aujourd'hui et demain, comme hier et chaque jour, de ta grâce. Nous te remercions de venir à nous dans ta parole, pain de vie et lumière du monde. Rends-nous pauvres en esprit, réceptifs à ce que tu veux nous dire, afin que nous ne repartions pas les mains vides, mais que nous soyons comblés par ton amour et fortifiés par ton esprit. Amen. Dans le cantique 302, les strophes 1 et 3.
Jésus, nous t'acclamons et dans nos cœurs nous t'adorons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, ô grand vainqueur.
Nous venons d'entendre cette parole de l'apôtre dans la seconde lettre aux Corinthiens. Même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dans ses mémoires de guerre, Charles de Gaulle a écrit cette parole terrible à propos du maréchal Pétain. La vieillesse est un naufrage. Un naufrage. C'est bien l'impression douloureuse que nous ressentons en face de certains vieillards de nos maisons de retraite ou de nos hôpitaux gériatriques, de ceux que nous avons connus en pleine santé, en pleine clarté d'esprit, et que nous retrouvons très diminués par l'âge et les infirmités. Un naufrage. C'est aussi la crainte que nous ressentons en pensant à notre propre vieillesse et à notre mort. Est-ce que nous n'allons pas inexorablement vers l'engloutissement corps et biens de tout ce qui fait aujourd'hui notre vie? Ceux qui me disent « c'est dur de vieillir » ressentent déjà en leur corps les premiers craquements de leur coque fragile. La mémoire qui flanche, la vue qui baisse, le cœur qui cogne, le souffle trop court, et puis ces douleurs dont on sent bien qu'elles ne nous quitteront plus. Autant de signes annonciateurs du naufrage. Et à cette usure du corps s'ajoutent d'autres renoncements qui déchirent le tissu de nos relations. La retraite, rupture plus ou moins abrupte avec l'exercice d'un métier. Cette souffrance de ceux qui, ayant été tellement actifs, se sentent soudain inutiles. Je ne sais plus rien faire. Je ne sers plus à rien. Et la navigation devient de plus en plus solitaire lorsque les enfants se sont éloignés, que des vides se creusent par le départ des proches, des amis. La vieillesse, un naufrage. C'est exactement ce que dit l'apôtre. En d'autres termes, l'homme extérieure va vers sa ruine. La première démarche que nous devrions faire, ou l'attitude à laquelle nous devrions nous préparer si nous sommes encore jeunes, c'est d'accepter la réalité de notre vieillissement. Reconnaître que nos capacités physiques et intellectuelles diminuent avec l'âge, que nos limites seront de plus en plus restreintes. Il faut être honnête vis-à-vis de nous-mêmes et porter courageusement le poids de nos années. Mais qu'il est difficile de renoncer au désir de garder à tout prix ce qui devrait être abandonné et ce qui, inexorablement, nous sera de toute manière arraché un jour. C'est une forme dangereuse de régression que de vouloir revenir en arrière. Restaurer une situation définitivement perdue. Il n'est pas possible de retrouver sa jeunesse. Et il arrive un moment où il faut accepter de renoncer à une pleine santé, à un métier que l'on a aimé, à des relations qui se sont distendues, à des projets qui ne sont plus réalisables. Prenons garde de nous aveugler nous-mêmes et refusons tous les mensonges flatteurs, comme ce slogan qui avait cours en Allemagne. Nous ne pouvons vous rajeunir, mais avec une BMW, vous resterez plus longtemps jeune. C'est de l'infantilisme de croire que l'on peut retarder notre vieillissement en se protégeant par une belle carrosserie. L'homme extérieur va vers sa ruine. Mais l'apôtre ajoute, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a donc dans ce naufrage une espérance, un sauvetage possible. Même si tout doit être jeté par-dessus bord pour alléger le navire, même si toute la cargaison est perdue, il y a encore une chance de sauver sa vie. Ou plus exactement, il y a deux hommes en nous. Si l'homme extérieur va réellement vers sa ruine, il y a au cœur de notre vie une personne qui peut continuer de grandir, de s'épanouir. Le naufrage n'est vrai que pour une partie de nous-mêmes. La vieillesse n'est réellement une catastrophe que pour celui qui est tout entier dans son corps, là où les dégâts sont irrémédiables. Tout entier dans son activité professionnelle, qu'un jour ou l'autre, il faut bien cesser d'exercer. Tout entier dans ses biens, qu'il devra perdre un jour en perdant la vie. Oui, si nous sommes tout entiers dans l'homme extérieur, alors sachons que nous allons tout entiers vers la ruine. C'est ce que reconnaissait un musicien français décédé récemment, qui, dans une dernière interview, se moquait éperdument de toute croyance, mais était bien forcé d'ajouter « C'est horrible !» de penser que la vie ne peut plus être que très courte pour moi. C'est la fin. Il n'y a plus rien. Affreux d'y penser. Je fais ce que je peux pour y penser le moins possible. À l'opposé de cette attitude, il y a celle d'un croyant, Dietrich Bonhoeffer, qui, au moment où l'on est venu le chercher dans sa prison pour l'exécuter, a dit à ses compagnons exactement ces mêmes mots, « C'est la fin ». Mais il a ajouté, pour moi, le commencement de la vie. L'homme intérieur, qu'est-ce que cela veut dire? Un vieillard mortifié de se voir traité comme un enfant parce qu'il était diminué physiquement, s'est écrié, « Ne suis-je vraiment qu'à moitié homme parce que je suis devenu vieux ?» Dans son corps menacé de ruine, il le savait bien, une personne intacte, susceptible de grandir encore et d'être renouvelée de jour en jour. Ce qui devient de plus en plus évident à mesure qu'on avance en âge, c'est naturellement que nous sommes enfermés dans la cellule d'un condamné à mort, en sursis, jusqu'au moment où l'on viendra nous chercher pour nous conduire au cimetière. mais il y a aussi, en chacun de nous, un autre regard possible qui ne s'attache pas seulement aux réalités visibles et qui permet de dire à cet autre, avec cet autre vieillard, le grand âge n'est pas pour moi une prison, mais un balcon d'où je vois plus loin et plus clairement. Plus loin que l'horizon du monde, plus loin que la ruine et le naufrage, vers ce grand renouvellement de toutes choses qui nous permet, que nous promet la résurrection. Qu'est-ce qui a permis à l'apôtre d'affirmer que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour? Est-ce simplement un refus de mourir? Une vague aspiration à l'immortalité? L'hypothèse rassurante d'une vie après la vie? En aucune manière. Car son assurance n'est pas partie de lui-même, d'un désir de son cœur qu'il prendrait pour une réalité. C'est au contraire à l'encontre de toutes ses convictions que Paul a été bouleversé lorsque le Christ ressuscité a fait irruption dans sa vie. Et c'est sur le fondement de cette rencontre décisive qu'il peut affirmer désormais, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi.
Quel tournant prodigieux dans notre existence. Lorsque nous avons cette assurance d'aller avec Jésus, non plus vers la mort, mais vers la vie. Quel changement de situation lorsque nous ne sommes plus obnubilés par la ruine de notre être extérieur, mais que nous portons en nous l'espoir d'un renouvellement de notre être intérieur, de jour en jour. Alors, les renoncements mêmes qui nous sont imposés, ces petites morts qui surviennent chaque fois que nous devons quitter quelque chose sans retour, accepter une diminution irréversible de nos forces, ne pourront pas nous enfermer dans l'amertume ou dans les déceptions inconsolables. Elles seront simplement des avertissements et des invitations à nous détacher de ce qui périt pour nous attacher d'autant plus fortement à ce qui demeure. Et loin de nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance, nous avancerons plus paisiblement vers le plein accomplissement de nos vies. Et bien sûr, parce que nous sommes fragiles, et c'est très facile de parler ainsi, plus difficile de vivre, parce que nous sommes fragiles et sujets aux doutes et aux découragements, impressionnés toujours beaucoup plus par les choses visibles que par le monde invisible, Dieu ne se contente pas de nous parler, il nous donne aussi, dans sa bonté, de rencontrer et de voir sur notre chemin des témoins de la vie, de ces hommes et de ces femmes qui n'ont pas perdu courage malgré leurs épreuves, qui ont reçu des forces surnaturelles au jour du malheur et au temps de leur vieillesse. Ces hommes et ces femmes que nous avons rencontrés et qui nous aident à croire et à espérer, parce que nous avons bien vu qu'ils n'attendaient pas la venue de la nuit, mais l'aube du jour qui n'a pas de fin. J'aime ce mot sobre et pourtant bien assuré du grand acteur qui a été Pierre Freinet. Il aurait dit avant de mourir, « Je vais dans un autre monde, je sens qu'une bonne nouvelle m'y attend. » Je sens qu'une bonne nouvelle m'y attend. Mais bien plus encore que la présence visible de ses amis sur notre chemin, la présence invisible de notre Seigneur éclaire notre route, renouvelle notre être intérieur. C'est lui qui maintenant nous invite à sa table avec cette promesse extraordinaire. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous prions. Seigneur, j'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'accable et qui me peine, ce qui m'angoisse et qui me gêne, et le souci du lendemain, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd fardeau traîné naguère de mon péché, de ma misère, et le pourquoi de mon destin, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté et la richesse, et tout ce que jusqu'ici j'ai craint, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains. Amen. Dans le cantique 399, nous chantons les trois strophes de ce cantique.
Dieu Tout-Puissant, ta volonté devrait régler ma vie. Mon cœur devrait toujours compter sur ta grâce infinie. Cantique 399, les trois strophes de ce cantique 399.
La paix du Seigneur soit avec vous tous. pardonnons-nous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est une chose bonne et joyeuse de te célébrer, Seigneur. Tu es grand et admirable. Tu es notre espérance et l'espérance du monde. C'est une chose bonne et joyeuse de nous rassembler autour de toi, Jésus, homme de chair et de résurrection qui a connu la mort et qui donne la vie. C'est une chose bonne et joyeuse, ô Saint-Esprit, secret de Dieu au fond des cœurs, d'être unis à toi et de dire cette louange qui dépasse toute mesure. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il est grand, le mystère de la foi. Père saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous. Renouvelle en nous la certitude de ton pardon. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous tes biens. Et comme les épis jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Ô Christ, souviens-toi de nous dans ton règne. Apprends-nous toi-même à prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre.
Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ, rompu pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, le sang de la nouvelle alliance répandue pour nous. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Christ, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Heureux ceux que tu prends avec toi pour les nourrir des biens de ta maison. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Le maître est là qui vous appelle. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Après notre prière d'action de grâce, cantique 147. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir comblés de ce pain du royaume qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité. Que cette communion soit pour nous l'apaisement de tout notre être. Qu'elle nous unisse à toi jusqu'au bout de notre course, au festin de ton royaume, là où avec le Fils et le Saint-Esprit tu seras vraie lumière et bonheur parfait au siècle des siècles. Amen. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Allons en paix.
C'est avec un message d'espérance et de courage pour tous les âges de la vie, et en particulier celui qu'on appelle, tellement à tort, le dernier, que nous allons maintenant quitter Saint-Loup, sa communauté, ses pasteurs. Mais c'est certainement un au revoir que nous disons aujourd'hui au pasteur Albert Curchaud, à Odette Rouge, la fidèle et talentueuse organiste, sœur Huguette Niedecker, qui a fait les lectures de la Bible, et à tous ceux et celles qui ont fait de ces quatre cultes une bénédiction pour chacun d'entre nous.